ils se sont confiés à nous durant la saison 1 du podcast. Tout l'été, ils vont nous envoyer des cartes postales de leur vie aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont heureux? Qu'est-ce que le podcast a changé pour eux? En résumé, alors, ça s'est bien passé? Bonjour Olivier.
Bonjour Sarah.
Alors, on vient de regarder la date. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en mars 2020. Déjà 3 ans. Je vais le rappeler pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ton épisode. On te laissait après le récit de la perte de ton futur mari pendant que vous prépariez votre mariage et de la découverte d'une partie complètement secrète de sa vie, à savoir une relation suivie avec un autre homme et ce que tu m'as expliqué, à savoir le chemsex, c'est-à-dire l'amour sous substance. Et donc tu nous racontais que tu as dit une phrase très forte dans le podcast, tu as dit les gens ont été invités à un mariage et ils sont venus à un enterrement. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir fait ce podcast?
Pas du tout. Non seulement j'ai pas regretté, mais je pense que ça a servi de thérapie. À l'époque, pas mal de personnes de mon entourage, plus ou moins amicales d'ailleurs, m'avaient dit tu devrais peut-être te faire aider, tu devrais peut-être voir quelqu'un à qui tu peux parler, parce qu'il y avait une forte colère quand même. Quand on se voit, toi et moi, il s'est déjà passé un certain temps, et donc la colère était déjà retombée. Mais le fait d'avoir totalement raconté l'histoire, ce que j'avais finalement jamais fait, m'a fait beaucoup de bien, en fait. Énormément de bien. Et je sais que ça a permis à des gens qui l'ont entendu aussi de comprendre comment moi j'étais à cette époque-là, et peut-être expliquer un certain nombre de mes réactions qui étaient un peu épidermiques, pour être clair, parce que j'étais un peu à vif, quoi. Et donc, aucun regret, enfin, je veux dire, c'est vraiment le mot thérapie, c'est-à-dire, c'est vraiment, ça a servi de... j'ai raconté l'histoire, ce que j'avais jamais fait, d'un bout à l'autre. J'avais raconté des bribes par moment, mais j'avais jamais dit la vérité. Il y a même des gens de la famille d'Alain qui, à mon avis, sont toujours pas au courant de l'histoire. Il s'imagine qu'il a fait un infarctus et voilà. Et c'est bien comme ça, parce que c'est des personnes très âgées et c'est pas la peine non plus d'entrer dans les détails qu'ils comprendraient pas, tout simplement.
À ce propos, justement, moi j'ai reçu à l'époque beaucoup de réactions de gens qui nous remerciaient collectivement parce qu'ils avaient découvert ce phénomène et qu'ils savaient même pas que ça existait. Maintenant on en parle un peu plus. Mais c'était une des premières fois qu'on parlait très concrètement de ce phénomène. Est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu as eu ce genre de retour aussi?
Alors non seulement j'ai eu ce genre de retour, mais moi, à partir de cette expérience de vie malheureuse, j'étais à l'époque très engagé auprès de Link, qui est un fonds de dotation qui récolte chaque année de l'argent pour AIDS. Et je trouvais absolument déplorable que dans les réunions qu'on faisait, on ne parlait effectivement que de la non-transmission du virus grâce à la PrEP. Enfin, on parlait beaucoup de choses comme ça et on n'abordait absolument pas le chemsex. Et donc, j'ai clairement mis les pieds dans le plat et j'ai demandé à ce que y ait au moins une à deux fois par an des réunions, des sessions où on parle de ça. Et puis les choses se sont faites naturellement, c'est-à-dire que la presse a commencé à en parler. Alors c'est pas grâce à moi du tout, mais je veux dire il y a eu effectivement un mouvement entre guillemets d'émancipation du non-dit. D'ailleurs, il y a une expérience qui n'a rien à voir avec celle que je racontais dans le podcast, mais qui peut intéresser tes auditeurs. C'est que je vais à un rendez-vous professionnel dans le 20e, on est non loin du Père Lachaise, et j'y allais tous les jours pendant une semaine. Et je croise deux fois en une semaine quelqu'un habillé en noir, que je connais, avec une cravate noire, qui visiblement portait le deuil. Et la deuxième fois, je l'interpelle, je fais « mais tu bosses dans le coin ?» Enfin, qu'est-ce que... Il me dit non, il me dit « il me dit je viens d'enterrer deux copains ». Cette semaine, je dis donc c'est bien toi que j'ai vu il y a quelques jours. Je viens d'enterrer deux copains cette semaine à cause du chemsex. Et il me dit ça me rappelle les années SIDA, c'est-à-dire qu'on faisait la fête En gros, le dimanche et le jeudi, on enterrait quelqu'un, quoi. Et ça, je me suis dit, bon, bah, là, il y a un vrai problème, quand même. Il faut que les autorités, à un moment donné, s'emparent de ce truc, quoi.
T'as dit tout à l'heure que quand on s'est parlé, t'étais très en colère. Et que t'en voulais à ton mari. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, c'était pas du tout un sujet de tromperie, fidélité, ça se porte, c'était pas du tout à ce niveau-là de votre relation. Tu en voulais de vous avoir volé votre futur et votre vie, et de t'avoir dissimulé des choses que t'aurais, enfin, en tous les cas, tu lui en voulais beaucoup à l'époque. Est-ce que t'es toujours t'es dans ce ressentiment-là?
Non, plus du tout. Et je encore une fois, je pense que le fait de t'en avoir parlé et d'en avoir parlé à la suite, parce que du coup des gens ont entendu le podcast et m'ont dit mais on savait pas, et du coup t'en reparles et en réalité tous ceux qui m'avaient conseillé d'en parler avaient raison. Alors moi à l'époque, on se connaît un peu toi et moi. J'ai un caractère qui fait que j'ai l'impression de gérer ma vie, donc je pouvais assumer tout. Force est de constater que même quand on a un caractère très trempé, il y a des moments dans la vie où ça fait peut-être pas de mal d'aller discuter avec quelqu'un. Ça veut pas dire faire une psychothérapie non plus, puisque c'est pas toi que tu remets en cause. Mais en l'occurrence, de vider le sac. Et c'est un peu ce que j'avais fait grâce à ce podcast. Et j'ai continué indirectement à le faire après le podcast, puisque bah automatiquement des questions sont venues de gens qui savaient pas du tout. Et donc voilà. Donc et puis ça s'est atténué. Et puis moi, ça m'a permis effectivement. Alors, je pardonnerai jamais, hein, parce que indirectement dans la tête, il y a toujours ce regret, finalement, d'avoir raté quelque chose. Mais de dire voilà, il a payé cher le truc quand même. Donc quelque part, il a joué, il a perdu. Moi, je vais pas porter ça non plus toute ma vie, et je peux te l'annoncer maintenant. En mai 2000, c'était en mai 2020, donc quelques mois après que le podcast ait été publié. Ça n'est pas lié, bien sûr. J'ai rencontré un garçon qui est l'inverse de mon histoire d'avant, qui avait 13 ans de plus que moi, puisqu'il a 25 ans de moins que moi. Donc il a 30 ans aujourd'hui et moi 54, pour ceux qui le savaient pas. Et comme disait, parce qu'il y a des gens qui s'étonnent toujours de ce genre de relation, et comme disait Guitry, à qui on faisait la remarque quand il a épousé sa dernière femme, qu'elle avait 25 ans de moins que lui, il a dit elle a la moitié de mon âge. Et donc il est normal qu'elle devienne ma moitié. Donc nous, depuis, on vit une belle histoire. Voilà.
Alors je savais que tu avais un amour. J'allais t'en parler. Il a écouté le podcast.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Sa mère aussi d'ailleurs, parce que je m'entends très très bien avec sa mère et je voulais qu'elle sache d'où je venais. Alors pas évidemment, je lui ai pas fait écouter le lendemain de la rencontre avec son fils, mais comme on est devenu assez intime avec sa maman, ses parents sont divorcés, enfin bref, à un moment donné, elle me questionnait sur mon histoire d'avant, donc je lui dis écoute, tu sais la meilleure histoire, c'est de l'écouter, et donc je lui dis voilà le lien et comme ça tu sauras. Et donc ça a beaucoup fait aussi pour l'acceptation du fait que j'étais plus vieux, du fait que c'est normal, en plus elle a des origines italiennes, donc elle protège son fils. Et du coup on a les meilleurs rapports du monde parce qu'elle sait, elle sait exactement d'où je viens, qui je suis, et voilà, donc c'est merveilleux.
Est-ce que ton histoire passée influe sur ta façon de vivre ton histoire d'amour aujourd'hui?
Certainement. Alors, je pourrais pas te dire comment, mais je suis, ouais, je pense que c'est évident. Enfin, mais je pourrais pas exactement te définir en quoi, parce que d'abord l'histoire actuelle est récente. On attaque la quatrième année. Enfin, on a attaqué la quatrième année. Alors qu'avec Alain, on avait passé 23 ans. Donc on peut pas comparer vraiment l'évolution du couple.
Non mais il y a sur la confiance.
Sur la confiance, bon, écoute, j'allais pas faire porter d'emblée à mon compagnon le passé, si tu veux. Donc, moi, j'ai d'emblée accordé une confiance. Je pense qu'il a fait la même chose. Il y a une chose qui est très différente, mais pour le moment, c'est-à-dire que, pour parler cru, puisqu'on avait parlé dans le podcast de notre relation sexuelle, on avait une forme de liberté. Enfin, en tout cas, de mon côté, moi, j'avais clairement une liberté. Lui, à l'époque, pour rappeler ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast, il me disait qu'il n'avait pas besoin de ça, mais il comprenait que je puisse aller voir ailleurs. Bon, on a, le futur a fait qu'on a appris qu'en fait, il allait déjà voir ailleurs, mais qu'il assumait pas. Bon, ça, c'est son truc. Là, en l'occurrence, on en a parlé tout de suite. C'est-à-dire que, contrairement à ma vieille histoire de couple, on a parlé tout de suite de ça. On a dit, est-ce qu'on est un couple ouvert, puisque c'est les termes qui s'emploient aujourd'hui, ou est-ce que on essaye, en tout cas, de... Alors moi, j'aime pas le mot essayer, parce que si c'est frustrant, il n'y a aucun intérêt. Donc, naturellement, je dirais, naturellement, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément envie d'aller voir ailleurs, pour l'instant. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de coup de canif dans le contrat. En tout cas, de mon côté, ni du sien, j'espère.
À propos de contrat, est-ce que tu envisages un jour de l'épouser si vous continuez à être heureux ensemble ?
C'est marrant cette question parce que, comme tu le sais, j'ai obtenu le mariage posthume, hein, puisque les bans avaient été publiés un mois avant la mort d'Alain et du coup, le chef de l'État a cette possibilité... après évidemment une enquête de moralité, enfin bref, un certain nombre de témoignages qui viennent corroborer le fait qu'on était vraiment en couple depuis 23 ans, a autorisé ce mariage posthume. Il se trouve que c'était le premier mariage posthume accordé à un couple gay homme. Il y avait eu un précédent, je crois, avec des femmes, d'après ce qu'on m'a dit, mais j'étais le premier couple en France à pouvoir me marier à titre posthume pour deux hommes. Et donc j'ai épousé Alain... Enfin, j'ai épousé un bouquet de fleurs, comme je l'avais dit dans le podcast, le jour d'une petite cérémonie qu'on a fait avec la complicité de la mère du 9e, qui est une amie de longue date et que je remercierai jamais assez, parce que c'était très important pour moi, qui avait été un militant de la cause, de pouvoir, moi, obtenir ce que j'avais réussi à faire à d'autres. C'était quand même un peu le paradoxe, de pas pouvoir se marier, alors que moi, je le souhaitais. Donc oui, je pense qu'on a des discussions sur l'engagement. Donc, on a une envie de s'engager l'un envers l'autre. Pour l'instant, on est dans une phase de d'attente, c'est-à-dire. Mais c'est clair qu'il y a. Je pense qu'il y a une envie mutuelle. Donc, peut-être qu'un jour, ça se fera.
Est-ce que t'es heureux ?
J'espère. C'est très difficile de répondre à cette question. Moi, j'en ai l'impression, mais est-ce qu'on est heureux tout le temps ? Est-ce qu'on est heureux définitivement ? Est-ce qu'on est heureux ? Moi, je dirais oui. J'ai l'impression, en tout cas, d'être heureux.
Merci.